I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Confiné ou pas, coincé chez vous ou sommé de sortir vous acquitter des quelques métiers qui maintiennent notre pays à peu près en place, ce pour quoi on vous remercie d'ailleurs, vous n'avez pas décemment pu échapper à un personnage devenu l'un des acteurs cruciaux de cette crise inédite. Il s'agit bien sûr du professeur Didier Raoult, l'homme de la chloroquine, ou plutôt de l'hydroxychloroquine, du nom de cette molécule utilisée habituellement contre le paludisme ou certaines maladies auto-immunes, dont il assure avec ses équipes qu'elle permettra de nous sortir de cette ornière virale. Virale, la figure du professeur Raoult, avec son look que d'aucuns ont décrit comme un mélange entre Panoramix et Gandalf le Gris, l'est tout autant et elle synthétise à bien des égards notre époque, où on peut être à la fois un clown et un savant, un médecin, un scientifique réputé, une référence en matière de microbiologie et d'infectiologie à la tête d'une institution prestigieuse mondialement, et un troll, un rebelle, presque un gilet jaune de laboratoire censé qui plus est incarner la résistance permanente de Marseille où Raoult est installé face aux diktats de Paris. Bref, une icône embrouillée de notre époque embrouillée qu'on a eu envie de mieux comprendre en utilisant notre question rituelle. Qui êtes-vous, professeur Raoult? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
L'hydroxychloroquine.
Écoutez, je pense qu'on ne peut pas attendre... Pendant 6 mois, des tests de souris, on est en guerre.
La méthodologie de l'essai est fragile, les résultats sont surexploités. On ne donne pas des espoirs aux gens sur un essai mené comme ça, de manière assez approximative.
Il n'aime pas être hurlé avec les loups, être mainstream, c'est pas dans sa nature.
Pour saisir le personnage, on s'est retourné vers nos confrères et consoeurs marseillais, puisque la figure du professeur Raoult est irrémédiablement associée, on l'a dit, à la ville où est installé son institut hospitalo-universitaire, l'IHU Méditerranée. Depuis quelques semaines, les portraits et les enquêtes consacrées à Raoult prolifèrent dans la presse. Une notamment a été signée par le site indépendant Mars Actu. J'ai donc passé un coup de fil à son rédacteur en chef et auteur de cette enquête, Benoît Gilles, à qui j'ai demandé, histoire de démarrer très large, c'est qui le professeur Raoult?
Alors, je m'excuse de ce rire introductif, mais bon, c'est une question impossible. La première chose à dire, c'est que c'est un grand scientifique. Je pense que c'est un point sur lequel tout le monde à peu près s'accorde. Hein. Et les 144 pages de son CV disponibles sur le site de l'IHU sont là pour accréditer cet état de fait. Effectivement, c'est quelqu'un qui a fait un certain nombre de découvertes très importantes dans le domaine qui est le sien, c'est-à-dire l'infectiologie, et donc qui couvre à la fois les bactéries, les virus et les parasites. Donc, il a fait des découvertes importantes, certaines même portent son nom ou portent le nom de la ville où il a passé la majeure partie de sa vie, portent le nom des quartiers nord, il est un peu ludique. Donc on lui doit d'importantes découvertes, on lui doit aussi la constitution d'un institut hospitalo-universitaire qui est dédié à l'infectiologie et qui est unique en France, à la fois par sa taille et ses ambitions. Donc c'est d'abord ça, c'est d'abord quelqu'un qui est un grand scientifique, et parce qu'il est un grand scientifique, alors je ne sais pas si parce qu'il est un grand scientifique aussi, et quelle est la cause et quelle est la conséquence, mais c'est aussi ce que ses détracteurs, mais aussi ses soutiens, décrivent comme un tueur. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans sa façon de faire de la science, se comporte comme un animal dominant, comme le mâle alpha d'une harde de lion, quoi. Mmh. Qui va être le moteur d'une équipe, mais qui peut aussi, de manière extrêmement violente, dénigrer ceux qu'il pense trop faibles ou pas à la mesure de la science, ou voire même donc mettre des bâtons dans les roues ou tenter d'écarter des gens qui sont contre lui, qui sont des concurrents dans le domaine scientifique. Et ça, ça, quand on enquête sur le bonhomme, ça ressort tout de suite. C'est-à-dire que des anciens collaborateurs, des scientifiques qui sont dans son champ, ou même pas dans son champ, des collègues, vont témoigner de ça, le plus souvent de manière anonyme, parce que cette violence qu'il a en lui, hein, et qu'il canalise pour en faire un moteur de sa recherche, finalement, elle peut parfois éclater de manière plus flagrante et plus immédiate dans le quotidien de l'IHU. Ouais,
par exemple, si on doit donner un exemple de cette tendance qu'il a à l'explosivité, qu'est-ce qu'on t'a raconté dans le cadre de ton enquête comme exemple ?
Alors, ce qui est relativement bien documenté, que moi, on m'a raconté, mais qu'on peut retrouver dans un certain nombre de publications qui sont consacrées à lui, il y a une fois par semaine une sorte de grand oral où tous les doctorants vont venir pour présenter l'état de leur recherche. Et donc ça se passe dans une forme d'agora qu'il a constituée au sein de l'IHU avec une forme de décorum très spécifique qu'il aime. Hein. Ce genre de choses qu'il aime, hein. Donc il y a pas de siège, tout le monde est debout, mais en même temps il y a une forme d'hémicycle dont il est le centre, hein. Et donc au cours de cet exposé, les étudiants sont invités à faire le point sur la recherche, sur l'avancée. Si jamais lui il n'est pas luné, ou que quelqu'un a le malheur d'être peut-être trop ému ou pas sûr de lui, il peut être d'une extrême violence et peut mettre les gens à terre, quoi, du haut de sa science, quoi. Donc c'est là aussi le côté un peu Janus du personnage où on peut retrouver une forme de génie et une forme de violence. Moi j'ai des proches de Raoul, des gens qui étaient voilà, qui dans le quotidien était amené à le voir très régulièrement et qui dit c'est Game of Thrones à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire il y a des enjeux de pouvoir, lui c'est un peu voilà l'empereur qui règne là-dessus, et derrière les proches qui vont se battre pour avoir pour être le plus proche de lui. Et elle disait, quand je le voyais arriver dans le couloir, cette personne me disait j'avais la musique des dans la mer, et je savais pas si ça allait bien se passer ou si ça allait mal se passer. Si ça se passait mal, je savais que j'en avais pour la journée à supporter ses humeurs. Voilà, ça c'est pour le côté anecdotique, quoi, on va dire, du bonhomme.
Il y a une contradiction qui apparaît très bien d'ailleurs dans l'enquête de Mars Actu, c'est qu'on nous le présente médiatiquement, en tout cas ses soutiens en ce moment le présentent beaucoup comme quelqu'un d'isolé, qui serait un outsider, qui porterait une forme de voilà d'alternative à la parole officielle, et on se rend compte qu'en réalité c'est pas quelqu'un de si isolé que ça, et qu'au contraire c'est quelqu'un qui a su construire un réseau d'amitié assez important, auquel il doit notamment sa position aujourd'hui.
Oui, c'est ça le paradoxe. Alors, il faut bien distinguer en fait le temps court de la polémique autour de la combinaison de molécules qu'il propose comme solution. Donc ça, c'est le côté franc-tireur qui est mis en scène dans un épisode spécifique. Mmh. Et ensuite, il y a le stratège qui, depuis finalement qu'il a choisi cette voie, ou qu'il a fini par se conférer aux instances familiales, hein, puisque c'est son père et son grand-père sont chercheurs, hein, donc là encore il se décrit comme quelqu'un qui a eu une vie aventureuse, etc., avant de choisir la science, mais il y a une forme de déterminisme très fort quand même dans sa trajectoire. Après, il a vraiment construit étape par étape son ascension à partir d'amitiés, de gens qu'il a su convaincre et des gens pour la plupart, étaient à mi-chemin de la sphère scientifique et médicale et de la sphère politique. C'est le cas de Maurice Toga, par exemple, qui était le doyen de la faculté de médecine et qui était aussi l'homme fort du RPR à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. C'est lui qui lui a fait grimper les échelons très rapidement au sein de la faculté de médecine, parce qu'il a su repérer la personne forte qu'il avait face à lui. Et s'il a pu convaincre Maurice Toga, c'est aussi qu'il a su le convaincre que la science avait besoin d'un dispositif pour juger les chercheurs, et un dispositif objectif pour juger les chercheurs entre eux. Donc c'est les premières règles qui permettent de finalement d'objectiver les publications entre elles, hein, au niveau mondial, et donc de hiérarchiser la science en elle. Et ça permet de très vite de mettre fin à la réputation de chercheurs basée sur une forme de subjectivité ou sur les capacités à faire réseau. Et très curieusement, lui, il va utiliser ce qui pointe donc à la fin des années 80, puis début des années 90, donc cette hiérarchisation par l'algorithme des publications des chercheurs, il va l'utiliser comme un moyen de grimper à l'intérieur de la science, à la fois en cultivant des réseaux locaux et en même temps en construisant une forme d'usine à publication destinée à le placer au premier rang des chercheurs français dans sa spécialité. Et les deux sont vraiment intriqués. C'est-à-dire cette logique d'utiliser à plein le dispositif qui permet d'avoir un rang très haut en termes de recherche, et d'un autre côté, utiliser ce rang pour construire une relation avec les élus locaux notamment, mais aussi les pontes, on va dire, de l'université locale, pour construire son précaré, sa réputation, puis très vite faire l'assaut des cabinets ministériels, des ministres même, pour les convaincre finalement d'investir de manière massive, hein, c'est unique en France, un investissement tel, dans son IHU. Et ça, et c'est vraiment quelque chose qui va se faire de manière progressive, on va dire. Dans les années 90 déjà, il a cet art du réseau, hein, où il va constituer des relations fortes. Et puis ensuite, dans les années 2000, à partir de 2003, où il fait un rapport sur le bioterrorisme, c'est ce rapport qui va être un peu le cheval de Troie pour pousser son idée d'un pôle dédié à l'infectiologie, un pôle qui serait à Marseille et qui rayonnerait dans le monde entier. Et donc ça c'est vraiment, on peut vraiment voir de manière étape par étape la manière dont il a conquis les différents cercles, ce qui l'éloigne en tout point d'une idée d'une espèce de franc-tireur qui serait marginal dans la science. C'est absolument le contraire. Non, au contraire, c'est quelqu'un c'est une force centripète. Il attire à lui, même contre leur gré, les forces, l'argent, les moyens. C'est ce qui est très très fort au niveau local et qui se révèle là avec la crise autour de son traitement, la polémique, hein, qui vient pour lui lui donner la notoriété finalement, celle qu'il attendait depuis longtemps, c'est-à-dire celle du grand public, hein, qui désormais le connaît, sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants de sa carrière.
Une notoriété qui, on l'a dit et répété, repose en grande partie donc sur Marseille, la ville et ses habitants revendiquant pour une bonne partie le professeur comme un symbole de leur indépendance vis-à-vis de Paris, l'éternel adversaire, quel que soit le terrain. J'en ai causé avec une autre consoeur, Stéphanie Aubert, qui est correspondante du journal Libération à Marseille, et je lui ai demandé si, dans une certaine mesure, Raoult incarnait une forme d'esprit de revanche perpétuelle marseillais.
Alors, je sais pas si c'est une revanche perpétuelle marseillaise, mais c'est vrai qu'il y a de ça, où on a l'impression que dans le discours, en tout cas sur les réseaux, puisque c'est à peu près le seul discours public qu'il y a aujourd'hui, il incarne complètement le Marseillais rebelle qui se plie pas aux règles et qui finalement rencontre dans cette ville un enthousiasme à la hauteur de l'enthousiasme pour des joueurs de foot. Les supporters d'ailleurs sur les réseaux sont en première ligne pour le défendre. Les Southwinners, qui est un groupe de supporters du virage sud du Vélodrome, a carrément mis une banderole devant l'IHU pour dire Marseille et le monde avec le professeur Raoult. On sent que la ferveur supporter de Marseille s'est déportée des matchs de L1 qui n'ont plus lieu à l'IHU.
Une très longue file d'attente à Marseille. Des centaines de personnes ont bravé le confinement et attendent devant l'institut du professeur Didier Raoult pour se faire dépister gratuitement.
À tel point que certains réclament même que son portrait soit installé comme celui de Zidane.
Sur le mur de la corniche, ouais. Il y a, donc pendant très longtemps, il y a eu le portrait de Zidane qui était sur le mur, sur un des murs à l'entrée de Malmousse, que là, vers la corniche Kennedy. Depuis, là, c'est un panneau publicitaire lambda où il y a eu Soprano, enfin, qui quand même est surtout réservé aux personnalités marseillaises. Et donc, il y a un chroniqueur de France Bleu Provence qui a lancé un appel pour que le portrait de Didier Raoult soit affiché sur le mur dit de Zidane, comme on dit ici. Et pour l'instant, enfin, ça n'a pas non plus atteint des sommets de popularité, sa page Facebook. Bien moins, en tout cas, que le groupe qui s'appelle le Professeur Raoult versus Coronavirus, qui lui ressemble à peu près 400 000 fans de la page. Il n'y a pas que ce mur d'affichage, on voit plein de trucs faits par des Marseillais, une image qui circule avec un bloc de savon, et il y a le portrait de Raoult dessus, et c'est écrit le savon de Marseille. Il y a une fausse couverture de Raon, enfin c'est devenu Raoult, avec un H qui terrasse le coronavirus. Il y a une image où il brandit la Coupe d'Europe à la place de Didier Deschamps, la Coupe d'Europe que l'OM avait gagnée en 93. Il y a vraiment un culte de la personnalité de Raoult.
Un des éléments qui change la donne dans tout ce débat, dans toute cette discussion autour de Raoult, c'est la manière dont lui-même il organise sa communication, dans le sens où il intervient finalement assez peu dans les médias traditionnels et qu'il a mis en place un dialogue direct finalement avec la population, avec le grand public.
Ouais, enfin, je nuancerais ça parce que il accepte quand même beaucoup d'interviews, notamment de presse écrite. Ouais. Il prend sur son temps pour répondre à tous les journaux. Alors, il y a eu des pleines pages dans la Provence. Nous, on a fait son portrait, il nous a parlé. Mais c'est vrai qu'en s'adressant directement via sa chaîne YouTube et le site de l'IHU, où il met en scène quand même des interviews avec quelqu'un de son staff hein, qui gère sa communication. Il prend lui-même le risque de voir le débat lui échapper et finalement d'occulter la seule question qui est importante et qui pour l'instant toujours pas tranchée, c'est savoir si l'hydroxychloroquine est efficace ou pas.
Un élément qui est aussi très important, c'est que certes on a beaucoup parlé du côté web qui est bon, assez logiquement très fort vu qu'on est tous les uns et les autres confinés et que donc c'est un peu notre seul portail vers l'extérieur et vers ce qui se passe, notamment quand on n'est pas à Marseille. Mais par contre, à Marseille, concrètement, dans la vraie vie à l'extérieur,
on parle de ça.
Et surtout, ça se ressent même jusque devant l'IHU, où il y a les files d'attente et où les gens font, on a parlé des banderoles, mais il y a aussi des démonstrations un peu d'affection envers Raoult.
Ouais, il y a des... À Marseille, enfin pour le peu qu'on a le droit de sortir, que ce soit à la supérette du coin, tout le monde ne parle que de ça. Et devant l'IHU qui est juste à côté, en fait, enfin, qui est collé à l'hôpital de la Timone, il y a les éboueurs qui, avant-hier soir, je crois, sont passés en défilé de camion, tout klaxonne à fond pour rendre hommage à Raoult. On voit aussi des banderoles sur les fenêtres à la gloire de Raoult. On voit plein de manifestations comme ça, populaires, à la gloire du professeur marseillais.
Et par ailleurs, on pourrait aussi voir dans l'émergence de Raoult et le traitement qui en est donné, notamment par les réseaux sociaux et les médias grand public, une façon de maintenir en activité l'une des spécialités de notre pays, à savoir la polémique. Parce que tant qu'on a de quoi s'engueuler, c'est que la vie continue malgré tout. Histoire de terminer en beauté, on a eu envie, avec toute l'équipe de Binge Audio, de vous faire entendre concrètement la transformation de Didier Raoult en objet de pop culture.
Ça n'est pas tous les jours facile, facile, mais je suis loin d'être un débile, débile. Vous pouvez rire de moi et même de ma dégaine, mais c'est moi qui vais vous sortir de cette merde. Au début j'en ai soigné 24 en cachette, à présent même Donald Trump veut m'acheter la recette. Ah si on essayait sur toute la planète ma chloroquine, ma chloroquine. Ah si on essayait sur toute la planète ma chloroquine, au virus va y faire sa fête.
Didier, tu comprends pas.
Eh ben je les emmerde. La chloroquine fonctionne, je vois pas où est le problème.
J'y peux rien s'ils aiment pas ta gueule, mon frère. Ils veulent rien savoir.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre du paracétamol? Ne rien dire comme des cons? Finir comme l'Italie? Faire confiance à Macron? engraissés dans la peur, en y laissant nos forces, flipper devant un virus, alors que c'est moi le boss? Non, merci. Sucer comme tous, ils font la queue des financiers, rester à la maison, dans l'espoir vain de voir nous dire les ministres dans 6 ans un vaccin qui peut-être nous guérisse. Non, merci. Voir et fréquenter chaque jour ces blaireaux, écouter tous leurs avis à l'arrache. Ces égaux malfaisants mériteraient minimum une faciale. N'est-ce pas moi, Raoult, qui a toujours fait du sale? Non, merci. Ne pas trouver de masque pour nos têtes, craindre de ne pas remplir nos petites assiettes, et se dire sans cesse « Oh, pourvu qu'il reste quelques feuilles de papier cul pour terminer le mois. » Non, merci. FaceTimer au quart d'heure, sans problème. Préférer faire des lives qu'un poème, devoir se camoufler parce qu'on veut se masturber. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais tester, traiter, guérir, gober.
Il y a quelque chose qui va pas du tout même. Et on comprend pas là. Le mec qui trouve un médicament, c'est la bombe. Tout le monde guérit en 6 jours. Mais nous, on soigne pas avec. Non mais là, c'est... T'as des cheveux, t'as pas de shampoing. Non mais allô.
C'est une urgence intergalactique. Je dois détourner votre vaisseau vers le secteur 9. Qui est votre commandant?
Didier Raoult est notre maître. Il choisit ceux qui meurent et ceux qui restent.
Merci à Benoît Gilles et Stéphanie Aubert pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio que vous retrouvez tous les soirs du lundi au vendredi aux alentours de 18h. On ne vous lâche pas, confiné ou pas. Le rendez-vous se poursuit grâce notamment à Lauren Bess qui prépare ses épisodes, à Mathieu Thévenon qui les réalise, à Diane Jean et Juliette Livertowski qui participent à leur fabrication. Pour nous retrouver, abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée de podcast. Venez nous parler sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Continuez à bien vous laver les mains, à rester chez vous si vous le pouvez. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.